Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Nous sommes quelques jours plus tard après le début du commencement de cette histoire. Car il faut que je vous prévienne, cette histoire a un commencement, une suite et une fin. Mais nous n'en sommes pas encore là. Dans le premier épisode, vous avez raté la mort d'Henri Le Bonnet, dit Riton, fils de la baronne. Scène plus cinématographique que radiophonique.
Deux jours après, à la nuit tombante, cinq cavaliers s'annoncent au portail. Ils demandent asile pour la nuit. Ils poursuivent une troupe de voleurs de chevaux depuis 3 jours. Celui qui paraît commander montre un document paraphé du duc Raymond Lebon, représentant du comté de Toulouse, donnant à cette troupe autorité de police avec droit de vie et de mort. On ouvre le portail, ils entrent dans la cour, mettent pied à terre. Des palefreniers décèlent les chevaux et les font boire à la mare. L'attroupement se forme auprès des cavaliers. Les hommes sont fortement armés. Chacun porte une arbalète, une bastarde, une épée courte et un épieu. Ils n'ont pas de cuirasse, mais de longs manteaux en gros cuir avec des épaulettes en fer et une espèce de casque en cuir. Les deux chiens qui les accompagnent sont couchés à leurs pieds. Les gestes sont lents. Ils ont les yeux bleus. En gros, ils ont fière allure. Quand ils enlèvent leur casque, une longue chevelure tombe sur leurs épaules et les filles, dans l'assistance, poussent béatement un soupir de contentement. J'avoue qu'il me gonfle un peu. Néanmoins, je fais mon boulot. Je guide le chef chez la reine et laisse les autres se dépatouiller avec les badauds. Un groupe inspecte les montures sur tous les angles. Les bêtes sont plus fines que nos chevaux, plus hautes au garrot que nos bourrins. Les commentaires vont bon train.
Mon Dieu, ça doit avancer ces bêtes-là. Hein. Ah, faut pas leur donner trop d'avoine, ils ont déjà l'air nerveux.
Le maréchal Ferrand étudie leur ferrage.
Ah ben, tu me donnes du fer de cette qualité, moi j'y arrive. Hein.
Il faut reconnaître que nos chevaux ne sont pas ferrés souvent. On n'a pas les moyens. Les sabots sont nettoyés tous les jours et il y a ferrage pour les grandes occasions. Un des cavaliers, escorté d'une nuée de gosses qui tourbillonne autour de lui, se renseigne sur le cheval B qu'on étrit devant les écuries. Je lui explique qu'il est nôtre depuis hier, son cavalier étant tombé sous les traits de nos arbels étriers. C'est une prise de guerre. Il demande à voir la selle. On lui montre. Il désigne un signe au fer rouge dans le cuir du pommeau.
Oh, ça c'est un des chevaux volés il y a une semaine.
Comme ils sont polis, ils assistent à la soirée de gala que la reine donne en leur honneur et le lendemain, quand ils ont décuvé, ils partent vers le sud à la poursuite des bandits. 3 jours passent et on les oublie. Vers midi, sous une pluie battante, les cavaliers de l'autre jour s'arrêtent dans la cour devant les écuries. Ils sont crottés, les chevaux traînent un peu la patte et surtout, ils ne sont plus que 4 et le cheval de bas a disparu. Un corps se balance en travers d'une monture. On se presse. Ils sont tombés dans un traquenard à une dizaine de lieues. Ils sont sortis de justesse, laissant un des leurs sur le carreau, tuant 2-3 assaillants. Normalement, ça aurait dû plus mal se finir, mais le hasard a fait bien les choses. Le chef a été tué, provoquant la fuite du reste des brigands, courageux mais pas téméraires. Eux ont pu récupérer leurs morts, mais ont dû abattre le cheval de bas en trop mauvais état pour continuer. On installe le mort sur une planche posée sur 2 tonneaux. Les moines, attirés par la mort comme des mouches, font ce qu'ils savent faire. Extrême onction, prière des morts et tout le tralala. La reine vient voir de quoi il en retourne, donne des ordres et tout le monde entre dans la grande salle du château. Entre-temps, il a été décidé de mettre leur mort dans la glacière avec le ritant en attendant. Je finis de m'habiller. La petite trousse a trouvé du travail avec un garde velu comme un singe. Tout est en ordre dans le meilleur des mondes. Ça n'a aucun rapport, mais je pense aux moines. Je croyais qu'ils se reproduisaient entre eux quand j'étais petit. Le moine de service au bain me dit que je raconte bien. C'est comme en vrai. Il était là quand tout ça est arrivé et pour lui, ce que je dis, c'est la pure vérité. C'est même lui qui a descendu le mort dans la glacière. Même qu'il avait fallu descendre sur la glace pour installer les corps de façon chrétienne. Je le remercie. Séché et propre, je m'en retourne aux cuisines n'ayant rien d'autre à faire avant le conseil du jeudi. Pour avoir les derniers potins du pays, c'est en cuisine qu'il faut être. Les cuisines sont à demi enterrées sous le grand bâtiment. C'est d'ailleurs les seules pièces à avoir une sortie franche sur l'extérieur. Si tu ne veux pas passer dans la cour devant tout le monde, tu sors par les cuisines. Seule condition, être copain avec les cuistots. À l'extérieur, côté nord, on trouve le couvent, petite masure qui tient lieu de chapelle et logis pour les 5 moines qui évangélisent le quartier. La reine les supporte, entre autres parce qu'elle ne veut pas se mettre le clergé à dos. Et surtout, ils ont la main verte. Une grosse partie des légumes que l'on mange vient de leur jardin. En dehors de ce talent, ce ne sont pas tous des lumières. Frère Abdelen fait office de scribe officiel du château. Celui qui est chef de la petite communauté est frère Resto Sec. Il sait lire, écrire et est d'un commerce agréable pour un religieux. Je tombe d'ailleurs sur lui en train de faire griller une tranche de lard.
Ah, bah tu tombes bien. Je voulais t'entretenir d'un sujet qui me tient à cœur.
Vas-y, je sors du bain, j'ai les oreilles propres.
Bah écoute, nous avons un petit problème avec les druidesses.
Pourtant, elles sont à cordes et d'un commerce agréable.
Ouais, ok, je suis d'accord, mais elles nous font de l'ombre.
Développe.
Ben, elles s'occupent de la source alors qu'elle est miraculeuse, et que quand même, merde les miracles, ça dépend de l'Église.
C'est vous qui le dites, hein. Elles étaient là bien avant vous, et la source ne vous a pas attendu pour être soi-disant miraculeuse. Encore que, personnellement, je n'ai rien vu de miraculeux dans cette eau. Elle glougloute, elle est salée, elle désaltère, et elle mousse beaucoup avec des saponaires.
Oui, ben, n'empêche que l'évêque a dit que si on ne récupère pas cette source, on va avoir des problèmes. Hein.
Vous l'avez vu quand, l'évêque ?
Ah ben, personnellement, je ne l'ai pas vu. C'est le moine de passage qui nous a informés. Il paraît qu'on ne serait pas le comté le plus christianisé.
Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais ici, je vous trouve bien présent. Un jour sur deux est chômé, en or. On ne sait combien de saints qui ne sont même pas du pays. Soi-disant que vous sauvez des âmes, etc., etc. À titre personnel, je n'ai rien contre vous. Vous êtes même de très bons jardiniers. Mais ne vous occupez pas de cette source, qui, je vous rappelle, est quand même propriété de notre Seigneur, et pas du vôtre.
Oui, attends un peu. Là. Le fossé s'élargit entre toi et Jésus-Christ. Continue sur cette voie et tu seras promis aux flammes de l'enfer.
Je compte sur toi pour sauver mon âme. Et en attendant, je continue à aller voir les druidesses quand je me foule une cheville ou que je me chope la cagagne.
Arrivé là, le cuisinier s'en mêle.
Vous pouvez aller vous engueuler ailleurs que dans ma cuisine ? On n'entend plus les sauces frissonner. Et vous faites peur aux poules. Si je l'étais angoissé, la viande sera dure et je me ferai engueuler au château.
On suit les conseils du cuisinier et l'on rejoint les autres dans la salle du conseil. Tous les jeudis, la reine tient son grand conseil. On y traite des problèmes de la vie du château. Ce jeudi, comme tous les premiers jeudis du mois, réunion dans la salle des colonnes. Deux pilastres en chêne tiennent le charpente. Donc, c'est la salle des colonnes. Nous sommes une dizaine autour de la reine, agglutinés près de la grande cheminée. Le moine, face à son lutrin, prêt à noter, ce qu'il y aura à noter pour la postérité, se frotte les mains pour se le réchauffer. Sans présent, frère Resto Sec, représentant les choses de la foi, Balthazar de Lambrades, connétable, Germaine la muette, chambellan de la maison de la reine. Madeleine la siffleuse, elle a un cheveu sur la langue, grand argentier. Gaspard le pleutre, chargé des bâtiments, et frère de Bertrand, René le Petit s'occupe des choses agricoles, René le Grand gère la source miraculeuse, accueille des pèlerins, etc. etc. Simon le Finin est responsable du matériel militaire et civil. Martin le Chauve, chargé des relations avec le religieux, druide et moine, et politique étrangère. Simon le Gras, qui fait office de sénéchal, gère la justice et les basses œuvres, sous les ordres de la reine. Le cuisinier, poste important s'il en est, tous les potins passent par les cuisines. Votre serviteur, qui a l'oreille de la reine, tient le rôle du naïf. Je fais partie de la famille sans en faire partie. Je vous expliquerai un jour. Je ne participe pas aux discussions, sauf si on me le demande. Et enfin, la reine, qui n'est pas plus reine que vous et moi. J'explique. Son vrai nom, c'est Pénélope, reine Frédérune, baronne du Choisal et des terres alentours. Reine, c'est le prénom qui, à l'usage, est devenu son titre usuel. Ce n'est pas grand-chose, mais ça lui fait plaisir. La reine ouvre la séance en faisant servir une bolée de cidre de la propriété et un filet de poisson séché. C'est la tradition. On déjeune en travaillant. Sa Majesté, ce matin, est en grande beauté. Son vêtement se décline en plusieurs couches de tailles et de couleurs diverses, du plus bel effet. Pour mettre tout ça en valeur, elle s'est affublée d'une espèce de houppelande rouge vif, brodée au dos d'un cerf sur son rocher. Elle a acheté dernièrement cette parure à des saltimbanques qui nous ont donné représentation. Poulaine aux pieds, et pour couronner le tout, toque en ragondin avec un plumeau. Les plus faux culs font assaut de compliments quant au goût exquis de madame. Celle-ci, qui a oublié d'être bête et cultive un certain humour, les remercie et propose de leur donner l'adresse de son tailleur. On rajoute des bûches dans le foyer. Croyez-moi, ce n'est pas superflu. Il fait plus froid dedans que dehors. Ses murs sont en pierre, ça garde le chaud et le froid, et vice-versa selon la saison. Moi, j'ai cru remarquer que les échanges thermiques ne se font jamais dans le bon sens. Les affaires courantes sont expédiées en deux coups de cuillère à peau. Certains serfs se sont plaints que leur fille, qui officiait en tant que servante au château, devait agrémenter les soirées auprès des invités, et ce, sans rémunération. La reine nous donne son opinion, qui peut se résumer ainsi. Il serait peut-être salutaire et plus rentable, sans aller jusqu'à instituer des règles sur la prostitution, de donner un petit quelque chose à ses filles. Tout peine mérite salaire. On va créer une commission pour y réfléchir. Frère Restosec demande aux membres de la future commission de prendre en compte l'exemple de Marie-Madeleine pour orienter leurs réflexions. Je vous passe les autres sujets évoqués. Vol de poules, décharges sauvages le long de la voie romaine, sens de circulation sur le petit pont de notre rivière, rapport sur la dernière grande manœuvre en date, etc. etc. Après avoir fini le cidre, on est passé au vin et, chemin faisant, on arrive au gros morceau de ce conseil. Lecture du rapport sur les suites à donner à la mort accidentelle d'Henri le Bonnet, dit Riton, fils légitime de la reine. Celle-ci, comme d'habitude, avait demandé de former une commission afin de faire des propositions. La reine, qui n'aime pas les conflits, s'en tient à une ligne de conduite immuable. Elle s'appuie, dans sa gouvernance, sur deux grands principes auxquels elle ne déroge jamais. Nommer des commissions et toujours donner une réponse affirmative, quelle que soit la question. Elle est toujours d'accord. Entre nous, on l'a surnommée la reine oui-oui. Comme dirait l'autre, après il faut gérer. Ainsi, ce jeudi, Martin le Chauve rend son rapport. Comme ordonné par votre majesté, nous nous sommes réunis dans les lieux secrets en date du 23 janvier de l'an de grâce 913 pour mettre sur pied la méthodologie adéquate afin d'explorer les diverses pistes qui s'ouvraient à nous. Le 24 du même mois, nous avons tiré au sort un président de séance pour la séance secrète du lendemain. Le lendemain, comme prévu la veille, nous nous sommes réunis secrètement dans un lieu connu de nous seuls. » La reine commence à monter quelques signes d'agacerie et demande à Martin le Chauve d'aller à l'essentiel, sinon on va y passer la soirée. Martin le Chauve obtempère. Pour la suite, la procédure en vigueur est la suivante. Un lit la question, un autre donne la réponse. À la question, Henri Le Benet est-il mort ?
La réponse est oui.
La mort est-elle accidentelle ?
La réponse est oui, jusqu'à preuve du contraire.
Je vous fais grâce de la litanie des réponses à questions jusqu'à l'intervention salutaire du cuisinier qui prévient que le repas va cramer si on n'accélère pas. La reine veut savoir le menu.
Alors, tartine de fromage fondu avec oignon rôti sur tranche et roulé de couen.
Ça lui va. Elle ordonne à la commission de donner leur conclusion. Je vous la livre telle qu'elle.
La commission, après avoir constaté que notre contrée n'a pas de saint attitré, en gros, un saint bien de chez nous, propose, l'occasion faisant le larron, de profiter de la mort accidentelle de Riton pour le sanctifier. Premièrement, ça nous met bien avec l'Église, et deuxièmement, on peut faire un travail auprès de la population en exposant les reliques de saint Riton.
Bien évidemment, tout le monde y pense, mais chacun se tait. C'est un coup à se faire de la monnaie. Sur ce, la séance est ajournée, le repas n'attend pas. Quelques jours plus tard, la reine me fait mander en ses appartements. Elle veut me charger d'une mission vachement importante. Faire le tour de sa châtellenie en passant, entre autres, chez Bertrand le Pleutre, son vassal à la frontière est avec les barbares, puis aller voir son autre vassal au nord après les marais. Je serai porteur d'un document du château à leur remettre. Je demande pourquoi moi pour cette mission. Je n'ai aucun titre pour la représenter. Je serai plus utile ici, etc., etc. Vous avez compris que je ne suis pas un fanatique des grands voyages. Passer plusieurs semaines loin de ma paillasse, dormir à la belle étoile, fréquenter les bêtes sauvages, ce n'est pas mon truc. J'essaye d'argumenter pour la faire changer d'avis. Comme quoi, il y a au château des jeunes nobles ou assimilés qui ne rêvent que d'aventures, etc., etc. Là, elle se fâche. Écoute, mon petit gars, tu nous as semé un beau merdier avec les moines qui se plaignent que tu n'es pas un bon chrétien. Alors, tu fais le mort un certain temps. Tu vas voir ailleurs le temps que je calme ces messieurs de l'Église. Entre nous, je ne dis pas que tu as tort, mais les intérêts supérieurs du château passent avant tes états d'âme. Gérard, le chasseur, sera du voyage. Tu me relèves le nombre d'habitants dans les hameaux que tu traverses. Tu comptes les sources, les vaches et les cochons. Le moine sera de la fête. Il sait lire et écrire, ça peut toujours servir. Ça fait bien 10 ans qu'on n'a pas visité les frontières nord de ma châtellenie. C'est l'occasion ou jamais. J'ai dit qu'il en soit fait ainsi. 2 jours plus tard, on passe le portail du château dans l'indifférence générale. Faut dire qu'il pleut à seaux. Seul le moine reste sec nous bénit. Je devine un sourire narquois sur son visage. Ce qui aurait pu être une promenade d'agrément va se transformer, comme on va le voir, en une grande aventure. La caravane comprend 3 mules de sel, une de bât, un chasseur, le moine, Abelaine et votre serviteur. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. Le chasseur doit nous guider du point A au point B en toute sécurité. Le moine tiendra le journal de bord avec tracé simplifié de l'étape du jour. Personnellement, je dois recenser les âmes, les cabanes, les bêtes, etc. Et mission suprême, je représente la reine auprès de ses vassaux. Si on m'avait dit un jour que je ferais le diplomate auprès de Bertrand le Pleutre et Gaston le Bègue, je ne l'aurais pas cru. J'en connais un, l'autre, j'en ai entendu parler. C'est enivrant, je suis en mission pour Monseigneur. Je déconne. Je suis quand même curieux de voir comment c'est ailleurs. Il y a des coins où je n'ai jamais mis les pieds. Si on regarde bien, il y a plus de lieux que j'ignore que des que je connais. On referme le portail derrière nous et vogue la galère. On trotte plein nord.
Vous venez d'écouter « Jour à neige, jour à peine » sur Radio Bartas.